blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
David Léonard Widmer, on se retrouve dans ce quartier du bourg de Martigny. On est attablé à une terrasse et on parlait des musiciens. Hein. C'est évidemment, alors ce sont vos clients, hein, c'est clair. Mais ce n'est pas des clients vraiment comme les autres. J'imagine qu'il y a d'autres métiers où c'est le cas. Mais enfin là, on a vraiment des gens qui soit vous amènent leur enfant, c'est-à-dire leur violon, en disant « il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Soit vous demandent de concevoir leur enfant, ce qui est encore une autre question. Quel rapport ? C'est de l'amitié qui peut se mettre en place avec des musiciens ?
Alors, c'est complexe parce que au début, c'était tout le temps de l'amitié. Et la chose, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir trop d'amis. C'est toujours quand même très proche. Mais pour rester concentré à l'atelier, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec ces choses-là... il faut être quand même un petit peu un ours. Et le problème, c'est que si on est plus amis avec un qu'avec l'autre, ils ont tous besoin d'avoir leur rapport particulier.
Bon, vous parlez d'ours, je suis obligé de vous interrompre. je voulais vous en parler. Vous savez qu'il y a un film français dont le personnage principal est un luthier. Est-ce que vous le savez ? Ça s'appelle Un cœur en hiver.
Oui, avec
c'est un film
oui.
de Claude Sautet qui a été fait quelques années après votre naissance. Hein, donc vous ne l'avez pas vu au cinéma, mais vous l'avez peut-être vu.
Oui.
C'est Daniel Auteuil qui joue un luthier. Alors, une histoire d'amour, etc.
Exactement,
qui a peu à voir avec le métier, mais c'est un ours. C'est un personnage complexe, un peu renfermé, avec des rapports sociaux difficiles. Alors, vous me parlez d'ours. Je me dis, bon, ils avaient raison.
Ben oui, mais moi, en plus de ça, je suis pas un ours à la base, mais je vois bien avec le temps, quand on le poids aussi de l'intensité de certains musiciens, ces choses-là, on n'a plus beaucoup de capital. Moi, je vois que ça menuise de plus en plus. J'essaie de garder ces choses-là dans une petite boîte et savoir faire la part des choses. Mais la chance de pouvoir bien en vivre et d'avoir une plus ou moins bonne réputation. Des fois, on me perçoit plus haut que ce que je suis. Du coup, c'est vrai qu'on s'isole un peu parce qu'on n'a pas envie d'être accaparé trop et on a vraiment besoin de se concentrer sur ce qu'on fait et pas forcément sur... Je préfère faire mon violon le mieux possible que de passer mon temps à essayer de le vendre. C'est le rapport de concentration.
L'un bien fait va probablement déboucher sur l'autre. Hein,
exactement.
C'est clair.
Ouais.
Comment vous... Bah, déjà, vous restaurez aussi des violons anciens ?
Là, j'ai plus le temps de restaurer.
D'accord. Mais vous avez eu entre les mains quelques grands instruments ?
J'ai travaillé sur des instruments qui coûtaient plus cher que ma propre vie. Donc, les premières fois, c'est...
C'est un des aspects, d'ailleurs, des musiciens professionnels qui souvent ne sont pas propriétaires de leur instrument, mais des très, très riches mécènes ou même des entreprises vont le financer pour eux. Hein, et donc, vous avez entre les mains quelque chose d'extrêmement précieux. On a bien compris qu'aujourd'hui, vous construisez vos propres violons. Je reviens au film, hein, parce que moi, c'est un petit peu ma clé d'entrée dans votre métier que je ne connais pas. Il y a quelque chose de sonore, c'est-à-dire que l'instrumentiste qui vient avec un problème, il se dit mon violon sonne plus bien, il va jouer devant le luthier et le luthier va lui dire c'est peut-être ça, etc. Ça se passe comme ça aussi ?
Ça se passe exactement comme ça et des fois ça peut être un casse-tête. Et justement, c'est là où justement le métier commence parce que au fond, faut faire de l'horlogerie sur des sables mouvants. C'est-à-dire faut être perfectionniste sur de la subjectivité. Alors là, en termes de communication, moi ce que j'observe, c'est que entre ce que la personne dit et ce que la personne a besoin ou la personne veut au fond, c'est plusieurs strates. Et à savoir, quelqu'un qui va chercher un instrument sombre, si on fait un instrument déjà sombre à la base et qu'il aime bien chercher le côté sombre, il va se retrouver avec trop de sombre. Alors quand il me dit moi j'aime bien les sons sombres, je vais plutôt aller faire un son timbré parce que je sais qu'il va aller chercher le côté chaud dans l'instrument. Et ça, au début, quand on va trop dans le sens de ce qu'on nous demande, des fois, c'est pas la meilleure chose. Mais c'est compliqué, et puis il faut pas trop le dire.
C'est conflictuel, parfois ?
Ça peut. Moi, j'ai la chance Si ça va pas, les gens vont ailleurs. Il y a pas de.
On se rencontre aujourd'hui, mais enfin, je vois que vous êtes plutôt quelqu'un de calme, quoi. Hein.
Oui, oui, je suis plutôt quelqu'un de calme. J'essaie de comprendre. Je prends mon temps et j'ai pas. Plus j'avance, moins j'ai de certitude. Donc du coup, on peut
très vite. La sagesse.
Et on peut très vite me dire les choses et je reste très ouvert parce qu'en fait, le but du violon pour qu'il sonne, c'est comme. En fait, c'est une merveilleuse allégorie de l'être humain, mais il faut le mettre assez sous tension pour qu'il vibre et le laisser assez libre pour qu'il respire. Un ou l'autre, il subit la. Soit s'il a trop de tension, ça ne respire pas. S'il est trop libre, ça ne projette pas. Et du coup, pour ça, il faut faire une structure sur des points rigides pour qu'il y ait une souplesse quelque part. Si tout est souple,
donc
ça s'effondre.
Il y a de la physique, on y est là.
Exactement. Ouais. Si tout est souple, ça s'effondre. Si tout est rigide, rien ne se passe. Et du coup, il n'y a pas de réponse radicale. C'est complexe. Il n'y a pas un moment donné où c'est très clair, très net. Mmh. Et savoir vivre avec.
Si c'était très clair, très net, on appellerait probablement pas ça des métiers d'art. Hein.
Exactement.
On doit trouver une espèce de
savoir
de...
vivre avec une plein de questions nébuleuses. Et avancer le plus justement avec ça. Ça peut paraître un peu perturbant, mais c'est comme ça.
Vous fabriquez vos violons avec votre collègue, hein, vous l'avez dit. Et donc, certains grands musiciens, on a cité Ophélie Gaillard, il y en a d'autres qui vous font confiance, qui vont jouer avec votre violon. J'imagine qu'on parlait de mon violon ne va pas, il ne sonne pas. Ouais. Vous assurez le service après-vente, en somme. Hein,
oui,
violon à vous peut revenir chez vous.
Ah, clairement. Quand il commence, en général, il préfère revenir chez moi, oui. Oui.
Donc vous suivez vos violons.
Exactement.
Il y a un truc important dans tous les métiers de patrimoine, c'est la transmission. On parlait du rapport au temps. Hein. Si le 16e, 17e siècle italien a produit ces instruments, vous le disiez, Stradivarius n'était pas tout seul, il avait des ateliers, des apprentis, etc. Ce rapport à la transmission, ça a été votre cas. Hein. Vous avez appris le métier, vous l'apprenez à d'autres.
Alors, un petit peu, j'ai un assistant. Après, je pense que cette étape-là, je la ferai plus tard. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais je crois que aujourd'hui, la génération actuelle, je pense qu'on va réagir par rapport à ce qui se passe, mais ça demande beaucoup de concentration et des fois un peu de discipline. Et moi-même, je suis déjà très perturbé avec mon téléphone. J'ai eu la chance d'avoir commencer à travailler sans un smartphone dans la poche. Et ça m'a donné une capacité de concentration un peu plus longue. Et là, je vois, j'observe, et j'en parle à des confrères plus anciens, c'est beaucoup plus dur à aller dans le fond des choses, et beaucoup de surface. Et malheureusement, sans les racines, ça tremble et c'est assez dur. Donc moi, pour l'instant, je sens que je sens déjà les prémices d'une génération qui a envie de sortir un peu de ces problématiques. Et là, j'ai pas trop de temps de former pour que la personne change d'avis dans 2 ans, parce que ça bouge, il y a beaucoup d'agitation et ça prend du temps de former quelqu'un.
Parler d'agitation, c'est intéressant. J'entends bien ce que vous dites hein, sur la capacité de concentration des générations, etc. Vu de l'extérieur où je suis, il y a l'image d'un métier un peu figé, c'est-à-dire qu'on fait un violon comme le faisait Stradivarius. Il y a toujours, j'imagine, le même nombre de pièces à assembler pour construire l'instrument. On peut innover.
Alors le domaine de la classique, je ne suis pas sûr qu'il soit fondamentalement là pour être révolutionnaire à chaque fois. Et on parlait d'histoire tout à l'heure. Et le violon est né de la Renaissance. Et la Renaissance, ça a été une redécouverte des textes anciens après une période médiévale. Et c'est regarder en arrière pour connaître l'humanité générale. Et grâce à la période de la Renaissance, on a développé les sciences, on a développé plein de nouvelles choses. Et des fois, c'est en regardant les bases qu'on peut redémarrer. Et moi aujourd'hui, je fais beaucoup de copies. Je veux faire des instruments personnels. À chaque fois que j'ai essayé, il manquait quelque chose. Et 11 ans de la copie, maintenant, je comprends de plus en plus les bases géométriques et la façon de fabriquer l'instrument pour qu'il soit beau et qu'il traverse le temps. Donc, le jour où je me sentirai assez, et j'espère bientôt, légitime de faire mon propre modèle et qu'il soit cohérent par rapport à mes exigences, je vais enrichir la lutherie de ma personnalité. Après, l'innovation en lutherie quatuor, ça va vite arriver hors sujet. Ça va faire on peut faire des violons super pour d'autres styles de musique.
Peut se dire aussi que les instruments ont évolué. Hein, vous dites, le violon, c'est la Renaissance. Il y a plein d'autres instruments qui sont arrivés. La musique évolue. Ce qu'on demande à un violon, c'est d'être un violon. Quoi.
Bah après, le truc, c'est qu'il évolue avec les grands courants. C'est-à-dire qu'il est né à la Renaissance, le violon. Et il a évolué à la période des Lumières en France. C'est-à-dire qu'il est... C'est la Renaissance italienne. C'était les instruments baroques. Ils étaient Monteboio.
Monteboio.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cordes en métal comme on a aujourd'hui, c'était du boyau. Ouais. Les manches étaient différentes. Donc Antonio Stradivari n'a jamais entendu un Stradivarius comme on l'entend aujourd'hui. Ils ont été modifiés. Et ils ont été modifiés au 19e par Guillaume. Et ça, c'est les suites des Lumières. Donc là, on passe de l'état de grâce des humanistes aux Lumières. Beaucoup plus scientifique.
Ce que je comprends de ce que vous me racontez, je ne vais pas vous interrompre, on arrive bientôt au bout, c'est que finalement, c'est l'histoire de la musique qui a une influence sur l'histoire des instruments. C'est, si la musique a besoin que l'instrument évolue, il évoluera. C'est
exactement. Ce que vous dites. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans une ère de spéculative. Et là, les instruments, beaucoup de spéculations sur les instruments, ils deviennent hors de prix. Et vraiment, ça suit l'histoire de l'humanité. Cet instrument, c'est assez intéressant. On verra peut-être qu'il y aura des instruments connectés bientôt, je ne sais pas.
On peut s'offrir un vide-mer pour un enfant qui commence le violon. C'est hors de prix déjà.
Non, parce que je veux pas passer. C'est beaucoup d'angoisse de vendre cher des instruments. J'ai des confrères qui prennent, qui pensent justement qu'en faisant cher, ça mettra de la valeur. Des fois, ça retombe après le décès. Moi, je veux juste être un artisan. Donc, si je dois passer mon temps à vendre, et surtout si on a dépensé trop cher pour un instrument moderne, s'il y a un problème, ça devient...
mauvaise réputation.
Oui, et puis les instrumentistes sont encore plus stressés. Moi, je préfère être calme. Donc oui, c'est par rapport au monde de la lutherie, j'irai jamais chercher à me mettre dans des situations que je supporterai pas. Je suis déjà anxieux de nature, donc ça m'intéresse.
Moi, je vous trouve plutôt sage dans vos propos.
Oui, mais l'anxiété fait la sagesse.
Oui, peut-être. Et le doute également, vous l'avez dit. Bah, c'était une jolie rencontre. Je vous remercie, David Léonard Vidmer. Et puis, tout le meilleur. Lyon va rester votre lieu pour les années à venir, en tout cas.
Pour les années à venir, oui, parce que maintenant, je me suis bien établi.
Un mot sur le rapport à votre lieu d'origine. Ici, le Valais, y a une ressource, il y a quelque chose d'y revenir
Ah oui, j'y viens toutes les années et tout. Non, bah, quand on est Valaisan, on est Valaisan. Après, j'ai été chez les Frouzes. Je sais qu'ici, bon, bah, maintenant, je suis plus Valaisan, je n'ai pas tout à fait français. Donc,
vous avez dit 70 avant.
Ah mince.
Merci à vous, en tout cas.
Merci beaucoup.